10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Un principe politique se vérifie une nouvelle fois ces jours-ci, c'est quand les choses vont mieux que les crises surgissent, quand la situation s'améliore, que les revendications se font plus fortes, car chacun tout simplement cherche sa place au soleil. Une itinérance du président en 2018 dans les départements du Nord et de l'Est n'ont pu empêcher la révolte des Gilets jaunes d'éclater, un soulèvement d'ailleurs que personne n'avait vu arriver. Aujourd'hui, pour la fin de son mandat, eh bien, c'est le tour à nouveau d'un tour de France pour Emmanuel Macron, cette fois-ci pour entendre, comme il dit, ce qui est accepté ou pas accepté dans le pays. Et la question se pose, est-ce que c'est lui-même encore qui est bien compris finalement par les Français, à quel point là, sa relation avec les Français aujourd'hui pose question, alors que l'élection présidentielle se profile à travers les élections locales, régionales, départementales, premier tour dimanche prochain, que le Rassemblement national est sur le papier, on verra dans ce que diront les électeurs, donné vainqueur dans au moins une région, et que la sécurité est devenue un des enjeux de cette campagne. Le dégagisme continue de faire son œuvre et pour 2022, eh bien tout simplement la question est de savoir si le macronisme n'en sera pas la prochaine cible. Pour ce grand rendez-vous, je salue donc Cécile Cornudet des Échos et Johan Usaï de CNews qui vous pose la première question.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Plusieurs milliers de jeunes à nouveau réunis hier à Paris aux Invalides pour l'organisation d'une fête géante. Les forces de l'ordre ont mis plusieurs heures à les évacuer. L'utilisation de la force qui tranche un peu quand même avec le discours d'optimisme que vous essayez d'envoyer. Est-ce que c'était la bonne solution ?
Plusieurs choses. D'abord, je comprends et je partage évidemment l'envie de ces jeunes et de ces personnes de se retrouver et de faire la fête. Je rappelle qu'il reste encore environ 12 000 personnes en ce moment qui sont hospitalisées parce qu'elles souffrent de formes graves de Covid-19. La situation s'améliore, la vaccination avance, les objectifs d'ailleurs de vaccination fixés par le président de la République sont tenus, mais le virus est toujours là, la pandémie existe encore. Et donc il convient de respecter les mesures sanitaires, c'est pour leur propre sécurité qu'ils ont été évacués. Et vous l'avez rappelé, ça a pris du temps, pourquoi ? Parce que l'idée était justement de faire le moins possible usage de la force en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Et moi, je voudrais ce matin avoir une pensée pour la gendarme qui a été blessée parce qu'elle a reçu des projectiles lors de cette intervention.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas encore à la vie normale. On n'est pas encore au retour à la vie normale. C'est le message que vous envoyez.
Il y a un retour progressif des jours heureux, si on peut le dire de cette manière. La vaccination avance, les terrasses rouvrent, la relance économique se profile. Bruno Le Maire s'est exprimé sur ce sujet longuement. Mais le virus est toujours là. On est encore en train de porter des masques. Il faut encore utiliser du gel hydroalcoolique. Tant que toute la population n'est pas vaccinée avec un seuil d'immunité collective important, nous devons encore faire preuve de prudence.
Ils disent régulièrement, on reviendra faire la fête, les mobilisations continue pour se retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Moi, je veux être à l'écoute de cela et je pense qu'il faut expliquer justement le sens de ces mesures. C'est vrai que ça fait 15 mois qu'il y a des restrictions, que c'est extraordinairement difficile. Je suis mère d'une adolescente, je vois à quel point la jeunesse a fait des sacrifices et je veux rendre hommage d'ailleurs à cette jeunesse. Et je comprends cela et nous devons maintenant trouver les voies et moyens avec les concerts, avec les événements sportifs, avec d'autres choses, que cette fête puisse avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires.
Cécile Cornudet.
Cette jeunesse est aussi celle qui est le moins vaccinée. Vous parliez d'immunité collective, mais on en est très loin. On note même une sorte de ralentissement de la vaccination. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément la rendre obligatoire pour permettre ces fêtes justement ?
Non, moi je ne crois pas que la vaccination obligatoire soit la solution. Je pense qu'on est dans un pays de liberté et chacun est attaché à sa liberté. Donc je crois plutôt à la force de conviction. Et j'observe qu'il y a d'ailleurs de moins en moins de gens qui sont sceptiques face au vaccin. Donc je pense que c'est ça la bonne solution.
Mais vous dites ce matin, vous prenez un engagement, jamais en France la vaccination ne sera obligatoire. C'est un engagement qui est ferme de la part du gouvernement.
Moi je ne suis pas ministre de la Santé, je vous donne mon humble point de vue et la position du gouvernement à ce stade. Et je sais que le président de la République est très hostile au caractère obligatoire de la vaccination pour le Covid. Il y a encore une liberté de chacun de décider, mais on voit bien que l'idée, c'est d'avoir des passes sanitaires, de créer un certain nombre de dispositifs qui incitent à aller se faire vacciner. On se fait vacciner pour soi, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, quand on est jeune, pour les autres, pour ne pas transmettre le virus. Les vacances d'été approchent, il y aura probablement des retrouvailles familiales. Si on veut pouvoir voir ses parents, ses grands-parents, les personnes fragiles, c'est mieux d'être
vacciné.
Mais
le ralentissement qu'on constate, il est inquiétant quand même de la vaccination là en ce moment. ces jours derniers ?
Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut rien lâcher là-dessus. On voit surtout que les objectifs sont tenus. Quand le président de la République a partagé son calendrier et ses objectifs sur la vaccination, certains disaient c'est intenable, ça ne pourra pas être fait, c'est un pari, etc. Mais en fait, les engagements sont tenus. Et on a exactement le nombre de Français vaccinés qui était prévu dans ce calendrier de vaccination. Il faut poursuivre ces efforts. Et je veux rendre hommage à la fois aux soignants, mais aussi aux pompiers qui se mobilisent. Je suis allée à Porte de Versailles, au vaccinodrome, avec le président et avec le Premier ministre Jean Castex. Et nous avons pu voir à quel point les pompiers étaient très mobilisés pour soutenir cet effort de vaccination.
Un autre rassemblement a eu lieu hier dans le pays, hein, d'ailleurs, plusieurs manifestations, celui dit
des
libertés, comment ?
Le meeting de Laurent Saint-Martin.
Et, il ne nous a pas échappé non plus, mais disons que sur l'ensemble du pays, on a plutôt remarqué le rassemblement pour les libertés contre l'extrême droite, à l'initiative de plusieurs syndicats, plateformes donc, de gauche. On a toujours entendu que le RN luttait contre le Rassemblement National ou que l'extrême droite était votre combat. Pourquoi vous n'y étiez pas ?
Plusieurs raisons. D'abord, moi, comme je viens de vous le dire et vous le savez, nous, hier, nous organisions un meeting autour de notre candidat, Laurent Saint-Martin, qui est un meeting prévu de longue date pour les élections régionales, pour présenter notre projet et pour faire passer cette mobilisation pour le 20 et le 27 juin. Ensuite, c'est une marche avec différentes organisations. J'observe, c'était plutôt une marche de l'extrême gauche, en réalité, et je n'ai pas vu de mot d'ordre clair, pardon de le dire de cette manière. Si l'idée, c'est de dire...
Contre l'extrême droite.
Alors, ça, c'est un mot d'ordre clair. Si on est contre l'extrême droite, mais bien évidemment, moi, j'ai toujours été au rendez-vous depuis...
Vous c'était le mot d'ordre hier. Hein.
Mais la première fois que j'ai voté, j'avais 18 ans, c'était en 2002, et c'était pour faire barrage au Front National à l'époque. J'étais à Place de la République, ou Place de la Bastille, pardon, comme tout le monde. Je ne sais plus si c'était Bastille ou République, mais en tout cas, j'étais à la manifestation comme tout le monde. Hier, les mots d'ordre, c'était « on est contre l'extrême droite et tout ce qui ressemble à l'extrême droite ». Et quand on leur dit « oui, nous aussi, alors c'est quoi exactement ?» En fait, on a une liste dans laquelle le gouvernement se retrouve, si vous voulez. Donc je crois que quand tout est d'extrême droite, plus rien n'est d'extrême droite. Quand on nous dit que lutter contre le terrorisme, c'est d'extrême droite, ou vouloir protéger les policiers, c'est d'extrême droite, je ne suis pas d'accord avec cela.
Alors, la semaine dernière, ici même, Bruno Le Maire disait que le Rassemblement National était, je cite, « une petite chose ». Gérald Darmanin considère qu'une victoire dans une région du Rassemblement National serait, je cite, « une marque satanique ». Qu'est-ce que ça veut dire, une marque satanique ? C'est quoi la marque satanique du Rassemblement National ? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ?
Moi, je n'ai pas entendu Gérald Darmanin prononcer ses propos.
Il l'a déjà prononcé ?
Je ne sais pas.
Je vous le dis ?
Ben, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas entendu prononcer ses propos.
Ses propos ont été rapportés par les journalistes présents sur place. Il a dit qu'une victoire du Rassemblement National serait une marque satanique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Vous savez, personnellement, j'ai assez régulièrement des soi-disant propos que j'aurais prononcés qui sont rapportés que je n'ai jamais prononcés.
Vous n'y croyez pas ou ces propos vous gênent ? Vous les prononceriez, ces propos, par exemple ?
Pas particulièrement, mais comme je vous dis, je ne vais pas me prononcer sur la base de propos, donc je ne sais pas s'ils ont été rapportés.
Ils ont été prononcés, Marlène, je ne sais pas.
Mais écoutez, vous étiez présent.
Mais des journalistes étaient présents.
D'accord.
Et l'idée était surtout de dire, au fond, ce serait vraiment une catastrophe. Ce serait quelque chose de très très grave. Est-ce que vous avez le sentiment que, au fond, c'est la meilleure manière de s'attaquer à un phénomène politique qui est présent, qui est ancré, qui est puissant sur le plan électoral ?
Vous savez, tout le gouvernement, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, moi-même, Bruno Le Maire, nous sommes tous mobilisés contre le Rassemblement National et justement contre ses idées. Nous sommes mobilisés dans les faits. Moi, avec le Covid, j'ai naturalisé des milliers de travailleurs étrangers qui ont été en première ligne pendant
le confinement. Ils n'arrêtent pas de progresser attention,
bien sûr, mais moi,
sur
je
le plan électoral, dans les
faut,
idées des Français.
Je crois, Michaël Darmon, qu'il ne faut rien lâcher. C'est pourquoi j'ai débattu face à Jordan Bardella, par exemple. Et je le referai parce que je crois qu'il faut débattre pied à pied face au Rassemblement National pour démontrer que le Rassemblement National est une arnaque. C'est une arnaque. Ils ne font rien. Jordan Bardella se présente en Île-de-France, il est sortant, il n'a aucun bilan et il n'a pas de programme. Moi, j'ai cherché le programme Marine du Chappa. Rassemblement National. Le programme du Rassemblement National n'est pas en ligne. Il n'est pas distribué par les militants, il n'est pas distribué dans les boîtes aux lettres. Et quand j'ai demandé à un militant pourquoi, il m'a répondu « Nous n'avons pas de programme. Nous savons que nous ne serons pas élus, nous ne faisons pas
alors,
de programme. »
Alors, comment expliquez-vous...
Ils ne viennent pas, je termine juste là-dessus, ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale.
Alors, comment expliquez-vous l'ancrage électoral et en tout cas des intentions de vote
parce
aussi puissantes
le Rassemblement National
que vous
joue
dites
sur
de
les
rien
peurs.
Faire.
Et la peur, c'est le fonds de commerce de la boutique du Rassemblement National.
Marlène Schiappa, le Rassemblement National qui, dans les intentions de vote pour le second tour, l'élection présidentielle, a progressé de 12,11 à 12 points depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Est-ce que précisément le président a une responsabilité dans le fait que le Rassemblement National soit historiquement haut ? Ça n'était jamais arrivé.
Non mais pardon, mais je rappelais tout à l'heure, on peut tout sortir de nos souvenirs de jeunesse, mais je rappelais tout à l'heure le fait que le Rassemblement National n'a cessé de progresser. Moi quand j'étais adolescente...
Il n'a jamais été donné à 47 ou 48% au second tour d'une élection présidentielle.
Oui,
essentiel.
Je partage ce que vous dites et je le déplore. Il n'a cessé de progresser.
Il y a une responsabilité du gouvernement ou du président de la République.
Mais moi, je pense qu'il y a une responsabilité de certains partis de gauche.
Mais c'est vous qui êtes de responsabilité. Vous n'avez pas une responsabilité.
Alors, j'ai compris votre question. Ouais. Je vous donne ma réponse. Ma réponse, c'est que je trouve qu'il y a bien sûr une responsabilité collective, mais il y a une responsabilité de certains partis de gauche qui vous expliquent que tout est d'extrême droite. Quand on vous dit Macron-Le Pen, ça se vaut. Quand on nous dit au deuxième tour Macron-Le Pen, je n'irai pas voter parce que je suis de gauche, je veux garder les mains propres. Ça, c'est irresponsable. Quand on fait croire aux gens que la politique du gouvernement serait une politique proche des idées du Rassemblement National, c'est irresponsable. Vous voulez que je vous dise, moi, quand j'ai dit que je souhaitais soutenir la police, eh bien, vous avez un certain nombre de personnalités, notamment sur les réseaux sociaux Audrey Pulvar, qui sous-entendait que soutenir la police, ce serait courir après l'extrême droite. Elle a dit à Laurent Saint-Martin, c'est la course à l'échalote derrière le Rassemblement National. C'est comme ça qu'on pousse des braves gens dans les bras du Rassemblement National, en leur disant que si vous voulez lutter contre le terrorisme, lutter contre l'islamisme, soutenir les forces de l'ordre, et ben ça voudrait dire que vous seriez d'extrême droite.
Alors,
je ne suis pas d'accord avec ça.
À propos de soutien des forces de l'ordre, Cécile Cornudet, une question.
Oui, la manifestation hier de la gauche s'est bien passée, il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre, mais cette semaine, il y a eu une décision très importante du Conseil d'État contre le nouveau schéma de maintien de l'ordre et notamment la technique dite de la NAS. Ça veut dire qu'une fois de plus, on va désarmer la police dans son travail?
Mais nous, ce n'est pas notre souhait.
Oui, mais comment vous réagissez?
Le ministre de l'Intérieur est en train de travailler pour trouver toutes les réponses qui puissent exister. Je ne vais pas dire que c'est un désaveu, c'est l'avis du Conseil d'État. On est respectueux de l'état de droit, contrairement à certains autres partis politiques que vous avez mentionnés. Et donc, nous écoutons les avis du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État.
C'est que le texte était mal ficelé au départ pour qu'on en arrive là.
Il y a un avis du Conseil d'État. Nous cherchons les voies et moyens de renforcer l'action des forces de l'ordre. C'est ce que nous avons fait avec un budget de la sécurité en hausse. Nous avons renouvelé plus d'un quart, près d'un tiers. Je vois que vous passez en vidéo derrière, pour ceux qui ne voient pas, qui sont à la radio, on est en train de montrer les images des nouveaux véhicules. Darmanin souhaitait renforcer les véhicules. Ça peut paraître anecdotique, mais quand vous êtes un policier et que vous voulez partir courir après un dealer de drogue et que votre voiture elle ne démarre pas, c'est un problème. Donc nous avons considérablement renforcé les moyens. Les caméras piétons.
Le Conseil d'État vous freine un peu politiquement, peut-être.
Principes démocratiques, par exemple l'obligation des journalistes de quitter la zone des manifestations au moment de la dispersion, a rappelé que c'était absolument au principe de la liberté de la presse.
J'étais journaliste quand j'étais jeune, je me dirigeais une agence de presse, je suis fondamentalement attachée à la
liberté
de la presse.
Donc vous êtes content de cette disposition qui est rappelée par le Conseil d'État?
Je suis contente, c'est qu'il y a une ligne de crête. Il faut assurer à la fois la sécurité des forces de l'ordre, mais en même temps garantir la liberté de la presse, c'est un impératif.
En tout cas, cet effet est rappelé par le Conseil d'État. On se retrouve dans quelques instants.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Et Marlène Schiappa, donc ministre déléguée à la citoyenneté. Cette semaine, Gabriel Attal, sur l'antenne d'Europe 1, a évoqué encore l'attitude à avoir face au Rassemblement National en cas de barrage, ce fameux front républicain dont il dit qu'il faut trouver une alternative parce que c'est compliqué aujourd'hui de le faire fonctionner comme avant. Il parle d'alliance républicaine. On écoute, on regarde. Et on explique.
Ça permet de réinventer ce front républicain et ça permet de dire il n'y a pas d'effacement de force politique et vous aurez dans l'opposition au Conseil régional, pas uniquement le Rassemblement national, mais d'autres tendances, certes très minoritaires, mais qui pourront s'exprimer pendant les 6 ans à venir.
Front républicain, pardon, Marlène Schiappa, alliance républicaine, ça veut dire quoi concrètement? Si on prend l'exemple de PACA, est-ce qu'il faut qu'il y ait une discussion, une fusion entre les deux tours, entre la liste LR, LREM et la gauche? Est-ce que c'est ça l'alliance qu'évoque Gabriel Attal?
Moi, je pense que Gabriel Attal a raison sur le constat et je le partage. Regardez ce qui s'est passé lors des précédentes élections. Vous avez beaucoup de régions dans lesquelles les listes sont purement et simplement retirées, désistées, et donc vous n'avez pas eu d'opposition.
Ça s'appelle le barrage au Rassemblement
national. C'était au nom du barrage républicain.
Mais moi, je crois aussi quelque chose qui s'appelle la démocratie. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la démocratie. Je pense que quand vous avez des régions dans lesquelles vous avez un seul parti et absolument aucun autre élu d'opposition, vous n'avez aucun socialiste en région PACA qui siège, je ne vais pas faire l'avocate du Parti Socialiste, mais vous n'avez personne des autres listes qui siègent, je crois que c'est problématique. Et donc la proposition de Gabriel Attal, c'est de dire qu'on peut remplacer ce désistement systématique par une forme de rassemblement et de fusion qui permettrait d'avoir des engagements et de faire en sorte que chacun puisse...
Ça veut dire concrètement, pour reprendre effectivement la question de Cécile, que dans la région, notamment du Sud, il pourrait y avoir donc une fusion avec l'entrée dans la liste de la majorité, tout simplement, des gens venant de la gauche, de manière à ce qu'ils acceptent...
Je ne suis pas candidate en région PACA et Monsieur Muselier candidat de droite et qui... Je ne vais pas vous annoncer une fusion entre Monsieur Muselier et la liste de gauche.
La question, c'est sur le principe. tel que le développe en ce moment la majorité.
Alors, vous me demandez de réagir sur un principe de Gabriel Attal pour l'application par Renaud Muselier.
Un exemple. Ça pourrait s'appliquer en PACA ou ailleurs.
Écoutez, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Moi, ce que je crois, c'est que c'est important qu'il y ait une démocratie et qu'il y ait des élus, au final, de tous les bords, et que face au Rassemblement national, on prenne ses responsabilités. Et je dis à la gauche, c'est bien beau de faire des manifestations contre les idées d'extrême droite, et vous avez raison, et le droit de le faire, et le droit de manifester est absolument fondamental. Maintenant, barrer la route à l'extrême droite, ça se fait concrètement dans les urnes, dans les rassemblements. Mais on voit à quel point c'est dur pour la gauche déjà de se rassembler entre elles, entre différents partis. Donc je ne sais pas si elle est prête à vraiment concrètement faire barrage au Rassemblement national. Pour l'instant, ce qui manque dans le barrage au Rassemblement national, je déplore, venant de la gauche, je déplore d'avoir à dire que ce sont les partis de gauche qui nous disent qu'ils ne voteraient pas au deuxième tour et qui refusent justement de faire ce rassemblement.
Mais après les municipales, vous disiez tous, on ne fera plus d'accord d'entre deux tours parce que les électeurs ne supportent plus ces arrangements avec la politique. Là, dans l'alliance républicaine de Gabriel Attal, il y a quand même l'idée de construire quelque chose avec les autres oppositions.
D'abord, moi, j'ai absolument jamais dit ça pendant les municipales. Moi, je pense que les élections, c'est un temps de rencontre avec les Françaises et les Français, avec des enjeux particuliers. Les élections régionales, il y a des compétences particulières à la région. Les transports, les lycées, donc la sécurité aux abords des lycées. En Ile-de-France, 80% des phénomènes de bandes, de violences entre jeunes se concentrent aux abords des lycées. La région, elle a un rôle à porter là-dedans. Donc fusion pour fusion, l'idée, c'est quel projet nous avons, quels sont les projets communs que nous pouvons porter, ou s'il y a un rassemblement, comme le dit Gabriel Attal, comment on s'organise sur une même liste pour dire que chacun aura un groupe et chacun pourra
s'organiser sur une même liste.
Ça dépend parce que justement, justement, l'idée c'est de dire qu'il y aura une fusion réinventée. C'est ce que dit Gabriel Attal. On pourrait fusionner sur une même liste, mais en disant que chacun porte ses projets et qu'une fois qu'il y a une élection, chacun siège dans son propre groupe avec ses propres
projets.
Donc
il n'y aurait pas de majorité pour
Il y aurait la majorité qui serait la liste qui arriverait en tête. Mais tout cela est vraiment mérite d'être débattu. C'est une proposition que met sur la table Gabriel Attal, que je trouve intéressante à titre personnel, mais qui mérite d'être étudiée et confrontée à l'épreuve des faits et des réalités
alors
dans chaque région.
Alors qu'il reste effectivement une semaine avant le premier tour.
Et dans les Hauts-de-France, on sait déjà que Xavier Bertrand, entre les deux tours, ne veut pas de cette discussion. Il ne veut pas d'alliance, de fusion de liste avec La République En Marche. Si Xavier Bertrand et Sébastien Chenu pour le Rassemblement National sont au coude à coude, est-ce que là, il faudra que la majorité, La République En Marche, se désiste pour faire barrage?
Mais d'abord, vous dites que c'est ce que veut Xavier Bertrand. Moi, je n'ai pas entendu Laurent Pietraszewski proposer à Xavier Bertrand de fusionner sa liste avec celle de Xavier Bertrand. Donc, il refuse une proposition qui ne lui a pas été faite.
Beaucoup au sein de la majorité et au sein du gouvernement proposent d'ores et déjà une alliance avec Xavier Bertrand, demandent des discussions.
Personne au sein du gouvernement se prononçait publiquement.
Dans la majorité, beaucoup.
C'est la majorité, c'est pas le gouvernement. Vous venez de me dire au gouvernement. Au gouvernement, je suis formelle. Il n'y a aucun ministre qui ait dit publiquement « Nous devons fusionner avec Xavier Bertrand », je vous le dis. Donc là, Xavier Bertrand refuse une proposition qui ne lui a pas été faite. Ensuite, il appartiendra aux candidats dans le Nord, à Laurent Pietraszewski, à Éric Dupond-Moretti, aux autres candidats, de se prononcer pour dire le moment venu ce qu'ils souhaitent faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pourrez toujours compter sur la majorité présidentielle pour empêcher le Rassemblement national d'être élu. Le rempart au Rassemblement national, au présidentiel, ça a été Emmanuel Macron.
Au prix du désistement, si jamais, effectivement, il a difficulté à trouver un accord d'alliance républicaine.
Nous verrons entre les deux tours. Je ne peux pas vous dire maintenant et au nom des autres candidats ce qui sera
mais
fait entre les deux tours.
Est-ce que vous dites qu'il faut tout faire pour battre le Rassemblement national, c'est-à-dire battre le RN quoi qu'il en coûte? Est-ce que vous dites ça? C'est votre position?
Absolument, vous avez raison. Et moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis prête à tout.
Y compris avec un désistement.
Mais moi, je suis prête à tout pour faire en sorte que le Rassemblement
national donc ça inclut un désistement, c'est bien ça.
Ne gagne pas. La configuration ne se pose pas dans la région où je suis candidate. Moi, je suis candidate à Paris. À Paris, et c'est l'honneur de Paris et l'honneur des Parisiens, il n'y a jamais le Rassemblement national en tête à Paris. Voilà. Donc j'espère que La République En Marche, le Modem, Agir, toute la liste de la majorité présidentielle avec Laurent Saint-Martin fera le score le plus haut possible et que nous serons au deuxième tour face à d'autres candidats. Et j'espère que nous serons devant la liste du Rassemblement national.
Alors, on reviendra effectivement sur votre région, mais encore une question sur le Nord et le Hauts-de-France, parce que c'est quand même une élection particulière qui se déroule sur ce terrain-là, puisqu'on sait que Xavier Bertrand veut affronter Emmanuel Macron en 2022. Et d'ailleurs, ce qu'il dit à l'égard du président de la République est très dur. Il accuse d'être déconnecté, de tout faire pour faire monter le Rassemblement national, parce qu'il dit qu'il en a besoin pour un duel l'année prochaine. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Xavier Bertrand s'égare un peu dans l'outrance. Et moi, j'observe qu'il y a un certain nombre de candidats qui confondent l'élection régionale avec la primaire de la droite. C'est le cas de Xavier Bertrand, c'est le cas de Valérie Pécresse.
Mais il
ne la comprend
pas, quoi. Il assume, en tout cas, Bertrand l'assume complètement.
Bah donc ça veut dire qu'à la fois Xavier Bertrand comme Valérie Pécresse, ce sont des gens qui nous disent « votez pour moi ». Ils nous disent tous les deux « si je perds, j'arrêterai la vie politique, mais si je gagne, je partirai faire la course à la primaire de la droite ». Donc moi, je pose la question...
C'est pas ce que dit Valérie Pécresse pour l'instant, on n'entend pas dire ça.
Il y a une interview dans Le Point, je vous invite à la lire, dans laquelle vous avez plusieurs pages, dans lesquelles elle explique justement son projet pour la France. Et ce qu'elle souhaite faire en tant que candidate, et elle se positionnera dans le parti d'Éric Ciotti, de Guillaume Pelletier, de Xavier Bertrand et d'autres pour la primaire de la droite. C'est de notoriété publique. Et donc moi je pose la question, qui dans ces cas-là va diriger les régions si d'aventure il devait être élu?
Ensuite, sur Xavier Bertrand,
moi je vais vous dire, je pense très sincèrement qu'il y a dans ce pays une majorité silencieuse, et je pense que cette majorité silencieuse, c'est la France bienveillante. C'est la France qu'on n'entend pas forcément, qui ne fait pas des tacles, qui n'enfarine pas, qui ne fait pas d'actes de violence dans la vie politique. Et je crois profondément à cette France bienveillante.
Cécile Cornudet.
Vous êtes donc candidat en Île-de-France. On voit beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron de 2017 prêts à voter Valérie Pécresse pour les régionales. Il faut une différence entre les scrutins nationaux et les scrutins régionaux. Et vous, qu'est-ce que vous lui reprochez vraiment finalement à Valérie Pécresse?
Ben, moi, ce n'est pas une question de reproche. La question, c'est que nous portons notre projet. Et nous le disons, quand on soutient Emmanuel Macron, eh bien, on vote pour la majorité présidentielle, la liste d'Emmanuel Macron, c'est la liste de Laurent Saint-Martin. Valérie Pécresse ment aux électeurs en faisant croire qu'elle serait, entre guillemets, Macron compatible, alors qu'elle passe son temps à tacler et à attaquer le président de la République
et le gouvernement.
C'est les électeurs qui le pensent.
Elle, comme vous dites, elle attaque le gouvernement.
C'est ce que dit Valérie Pécresse. Ensuite, les électeurs se font leur avis et les voix des électeurs n'appartiennent à personne. Et donc moi, je ne donne pas d'ordre ou d'injonction. Nous voulons démontrer et convaincre. Et c'est pourquoi, avec Laurent Saint-Martin, nous avons fait un programme concret, chiffré, sérieux, avec 154 propositions. Et c'est pourquoi nous sommes sur le terrain pour aller à la rencontre de chacun. Cet après-midi, je ferai la tournée des parcs parisiens avec les candidats, avec les militants de la majorité présidentielle. Et je crois que lorsqu'on soutient Emmanuel Macron, eh bien, on vote pour Laurent Saint-Martin en Ile-de-France.
Précisément, vous avez commencé à évoquer votre projet. On sait que Valérie Pécresse, elle a un bilan à présenter. Elle met l'accent sur la sécurité, la police dans les transports, la reconnaissance faciale. Audrey Pulvar, pour la gauche, le Parti Socialiste, elle veut la gratuité dans les transports. Et vous, quelle est votre mesure phare?
Alors, nous en avons plusieurs. Et c'est vrai, quand on en a 154,
c'est
un petit peu...
C'est quoi votre marqueur, le marqueur de Laurent Saint-Martin?
Alors, on
n'aura
pas 154 propositions avant la pub.
Je vous rassure, j'ai pas mis un PowerPoint avec moi, tout va bien.
Mais juste problématique.
Je vais vous en parler de trois mesures. D'abord, la première, on a dit qu'on voulait créer une police régionale. Quand on a dit ça, les partisans de Valérie Pécresse ont commencé à ricaner en disant « la sécurité, c'est pas de la compétence de la région » pour finalement reprendre la même proposition. Soit dit en passant, moi j'observe que la région, elle a un job en matière de sécurité. La région, elle a la compétence des transports et des lycées. Dans les transports, la région a un job à faire, c'est que quand vous êtes une femme et que vous prenez le RERB à 22h, vous devez pouvoir vous sentir en sécurité. Eh bien, ce job, il n'est pas fait, parce que la région ne prend pas sa responsabilité en continuant
de sécurité. Mais rapporteur du budget,
sécurité.
À l'époque, Laurent Saint-Martin n'a pas voulu donner les budgets nécessaires pour développer cela, lorsque Valérie Pécresse...
Ça, ce sont les éléments de langage de Valérie Pécresse. Avec Gérald Darmanin, nous avons vérifié les chiffres, et je peux vous dire que nous rétablissons les policiers, les postes de policiers que Mme Pécresse a supprimés quand elle était ministre du budget. Ministre du budget avec François Fillon, elle a supprimé 12 000 postes des forces de l'ordre. Avec Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, nous les rétablissons. Et avec Laurent Saint-Martin, nous créerons cette police régionale pour assurer notamment la sécurité des femmes dans les transports face au harcèlement de rue, en complément avec la sous-direction régionale des transports et avec la SUGE, la Sûreté Générale de la SNCF.
C'est le projet également de Thierry Mariani dans le Sud. Ça veut dire qu'au fond, c'est les mêmes programmes pour tout le monde, quel que soit le parti, c'est la sécurité dans les transports.
Non, ça veut dire qu'il y a un enjeu fort et moi, je me réjouis que chacun commence à s'intéresser à la sécurité des femmes. Il a fallu attendre 2017 pour qu'on verbalise le harcèlement de rue et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.
Est-ce que là, vous ne décrivez pas un échec du gouvernement? Si vous dites que les femmes sont en insécurité dans les transports, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de l'État?
On est le premier gouvernement et le seul à avoir fait de la question de la sécurité des femmes, que ce soit dans les transports ou dans leur foyer face au féminicide, une priorité absolue. C'est nous qui avons créé la loi sur la verbalisation du harcèlement de rue. Elle n'existait pas avant. Est-ce que des responsables politiques parlaient de harcèlement de rue, parlaient de féminicide?
Alors,
on est quatre
revenir,
lois
justement.
En quatre ans pour mieux protéger les femmes. C'est nous qui l'avons fait.
Marlène Schiappa, on y revient dans quelques instants. À tout de suite.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. On va revenir, comme on l'a dit, donc sur les questions effectivement de féminicide. Mais tout d'abord, une question sur l'immigration. Le président de la République a réuni tous les ministres concernés cette semaine. Et il a aussi acté qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi asile-immigration, comme on l'avait entendu. Pourquoi ?
D'abord parce qu'il convient d'appliquer la loi. Nous avons renforcé la loi et surtout nous avons clarifié un certain nombre de sujets. Avec cet équilibre qu'évoque souvent le président de la République entre l'humanité et la fermeté. La France est une terre d'accueil et elle doit le rester. J'y suis personnellement très attachée. Mais la France doit être aussi respectée dans ses décisions pour pouvoir maîtriser justement cet accueil et accorder le statut de réfugié comme elle le fait dans la vertu de la Convention de Genève.
Alors, si on va un peu plus sur les mesures décidées, Yoann Uzaï.
Oui, parce qu'Emmanuel Macron a demandé d'être plus sévère dans les reconduites à la frontière. Mais est-ce qu'il y a des éléments concrets, des mesures concrètes qui nous permettraient de penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui va changer?
Oui, vous savez, c'est un travail de longue haleine parce que la particularité et la difficulté, pour vous dire les choses sincèrement et qui préexistait, c'est qu'entre les décisions, les OQTF et les décisions de reconduite à la frontière et la reconduite effective, vous avez un travail de diplomatie à mener avec les pays pour que les pays reprennent leurs ressortissants. Et c'est le sens de la tournée diplomatique qui a été lancée à la fois par le ministre de l'Intérieur, mais aussi par le ministre Jean-Yves Le Drian, dans des pays du Maghreb, pour que ce travail se fasse et que l'on puisse travailler avec l'Algérie, la Tunisie et d'autres États.
Et est-ce que vous avez des objectifs chiffrés peut-être à annoncer ce matin, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France, on ne reconduit que 15% de ceux qui sont en situation irrégulière. Quel est l'objectif si Emmanuel Macron veut plus de sévérité?
Notre objectif, c'est un objectif de sens et notre objectif, c'est d'expulser en priorité et d'expulser fermement tous ceux qui ont été condamnés. Moi, c'est quelque chose que j'avais obtenu en 2018 auprès d'Edouard Philippe dans un comité
interministériel. Condamné ou en situation irrégulière sur le territoire? C'est
alors,
pas la même chose.
Alors, hein. Moi, je vous donne deux exemples et je vous partage ma priorité. Notamment, par exemple, les personnes qui sont radicalisées et les personnes qui ont été reconnues coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. C'est une décision qui avait été prise sous Edouard Philippe, que j'avais moi-même proposée et portée dans ce comité interministériel. Et l'idée, c'est qu'on fasse en sorte d'être concret. Je peux dire que 174 personnes se sont vues, par exemple, retirer leur protection et donc leur statut de réfugiés dans les 6 derniers mois pour que leur expulsion soit permise, soit parce qu'ils étaient radicalisés, soit parce qu'ils étaient coupables de violences conjugales.
Alors, on écoute ce que vous dites attentivement et ce que l'on comprend, au fond, c'est que vous agissez essentiellement sur ce qu'on appelle l'existant, ce que les techniciens de l'immigration appellent très méchamment le stock, c'est-à-dire les gens qui sont présents sur le territoire. Mais les flux migratoires, qui sont également la vraie question, là-dessus, vous n'agissez pas?
Non, c'est faux. D'ailleurs,
Et ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas d'intention d'agir.
Non, je suis absolument en désaccord avec cela. Et notamment, j'ai représenté le gouvernement au Sénat cette semaine pour un débat sur le rétablissement des frontières, à l'intérieur de l'espace Schengen et le renforcement des moyens de Frontex. La France porte cette position pour renforcer les moyens humains et financiers de Frontex. La France va participer et va présider, vous savez, au niveau de l'Europe, un certain nombre de travaux. Je serai d'ailleurs avec Clément Beaune et Florence Parly cet après-midi pour débattre sur les questions d'Europe et sur le rôle de l'Europe. Puisque je crois que l'essentiel, c'est d'avoir une politique européenne qui soit cohérente.
Oui, tout à ça, on entend, c'est une communication bien rodée.
C'est
mais
pas
la
une
réalité, c'est que
une
vous ne
politique.
Touchez pas aux flux migratoires.
Mais bien sûr que si, je viens de vous démontrer le contraire. Non. Justement, avec la période de Covid, ces contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen ont existé. Ils continuent à exister et ce travail, il est mené par le ministre de l'Intérieur.
La question qui est en train de monter, notamment à droite, portée par notamment Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit, c'est de demander un moratoire sur l'immigration. Donc mettre à arrêter les entrées, tout remettre à plat pour voir effectivement la politique à adopter. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable?
Je pense que c'est de la pensée magique. C'est de la théorie, c'est du yaka, faucon. D'abord, sur le sens, on peut discuter. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à un moratoire sur l'immigration. Moi, je vous pose la question, comment est-ce que le pays aurait tenu sans les immigrés et les enfants d'immigrés qui ont été en première ligne pendant le confinement? Les personnes qui ont travaillé, qui ont été aides-soignantes, infirmières, médecins, pharmaciens, pharmaciennes, agents de sécurité, les personnes qui ont gardé les enfants, les personnes qui ont fait les ménages, les livreurs. Moi, je parle, et vous me parliez des mesures phares pour la régionale.
Pas beaucoup sont français, hein, ce sont des gens qui sont...
Dans la mesure où c'est moi qui les ai naturalisés pour des milliers d'entre eux, et que nous avons encore des milliers de dossiers. Vous avez évidemment...
Toutes les deuxièmes lignes du Covid, pour vous, ont été naturalisées?
Je ne dis pas que c'est toutes, mais je dis que moi, j'ai pris une circulaire pour naturaliser les personnes qui m'ont répondu présentes pendant le Covid et qui sont de nationalité étrangère. Et j'en suis fière. Et je veux mentionner également les livreurs, parce que personne ne parle jamais des livreurs de repas à domicile qui vivent dans des conditions de travail terribles. Moi, je propose aux régionales de leur construire des salles de repos pour qu'ils puissent vivre décemment et pas manger debout sous la pluie ou dormir sur leur scooter. Et beaucoup d'entre eux sont de nationalité étrangère. Eh bien, je souhaite que ceux qui ont travaillé en première ligne, comme les aides-soignants, comme les autres, on puisse reconnaître le fait qu'ils ont fait un pas pour rendre service au pays.
Cécile Cornudet.
Vous vous êtes inquiétée sur la recrudescence des violences conjugales. Pourtant, c'était la grande cause du quinquennat. Ça reste toujours une urgence. Comment c'est possible?
Mais d'abord, c'est toujours la grande cause du quinquennat. Je veux vous
rassurer. Oui, mais rien n'a bougé, puisque vous vous en inquiétez aussi.
Pardon, mais c'est pas vrai.
Est-ce que ce n'est pas la grande faillite du quinquennat?
Mais non, c'est complètement faux. De dire que rien n'a bougé, je vous réponds. Le Grenelle des violences conjugales a donné lieu à énormément de mesures. Vous avez une révolution dans la manière dont on forme les forces de l'ordre. Plus de 88 000 policiers et gendarmes ont été formés. Plus 100% des élèves d'école de police et de gendarmerie. Cette formation, elle n'existait pas.
Pardon, mais c'est pas ce que dit le rapport dysfonctionnement maintenant. Sur l'affaire de Mérignac, qui a montré justement des dysfonctionnements dans la chaîne de police de justice.
Les gens
ne sont pas prêts, en fait.
Mais là encore, c'est faux, Michael Darmon. Le rapport ne dit pas qu'il n'y a pas 88 000 policiers qui ont été formés.
On n'a pas dit ça.
Donc moi, vous me dites, c'est pas ce que dit le rapport.
On dit qu'il y a un problème pour évaluer la dangerosité des agresseurs.
Il y a deux choses différentes. D'abord, les violences conjugales, les anthropologues nous disent qu'elles existent depuis l'Antiquité. C'est devenu une priorité politique depuis 2017. Et moi, depuis un an maintenant que je suis au ministère de l'Intérieur, c'est ma priorité absolue, de faire en sorte que 100% des plaintes soient prises, qualifiées, transmises au parquet. Avec Gérald Darmanin, nous allons encore plus loin. Avec Éric Dupond-Moretti, nous créons un fichier pour les auteurs de violences conjugales. Vous me dites, rien n'a bougé, Cécile Cornudet. C'est pas vrai. L'autorité parentale, maintenant, on la retire. C'est dans la loi du Grenelle des violences conjugales. Maintenant, on saisit les armes, et ce, dès la plainte. Et à Mérignac, nous avons demandé un rapport conjoint, intérieur, justice. C'est rarissime que cela se produise, pour mettre à jour les dysfonctionnements. Et nous voyons effectivement que, la loi sur la saisie des armes, elle a été appliquée, puisque la question lui a été posée. Mais derrière, vous avez un homme déterminé à tuer, qui est allé ensuite acquérir une arme, mettre deux coups de fusil dans les jambes de sa femme pour l'immobiliser et la brûler vive et ensuite mettre le feu à leur maison. Vous faites face à des hommes qui pensent qu'ils ont droit de vie ou de mort sur leur femme ou leur épouse, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout seul, il faut le dire.
Est-ce que vous diriez que le gouvernement est en train de réussir dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Parce que les chiffres ne semblent pas le montrer aujourd'hui.
Vous-même dites que les signalements sont de plus en plus importants.
Non, mais moi je ne vais pas dire ça, je n'aurais pas l'indécence face à des femmes qui en ce moment même sont tabassées par leur mari ou face à des gens qui sont en deuil. Il y a le procès de l'assassin de Julie Douib en ce moment. Moi je lis tous les soirs les comptes rendus d'audience. Cette femme qui a été tuée par arme à feu par son conjoint... C'est absolument terrible. Et donc moi, je n'aurais pas l'indécence de dire cela. Je suis militante féministe depuis l'adolescence. Je ne vais pas fanfaronner sur ce sujet. En revanche, ce que vous dites n'est pas vrai, pardon, sur les chiffres. Il y a eu moins de féminicides cette année que l'année précédente.
Toujours deux fois plus qu'en Espagne, par exemple.
Mais on peut faire les comparaisons. L'Espagne a pris ce sujet à bras-le-corps depuis 2003. En France, il a fallu attendre 2017. Peut-être que si en 2003, la France avait fait de ce sujet une priorité, eh bien ce serait le cas. Il y a 4 ans, pour le meurtre d'Alexia Daval, quand j'ai dénoncé un féminicide, sur tous les plateaux de télévision, on rigolait en disant « féminicide, elle invente un mot, ça n'existe pas ». Quand on a fait avec Édouard Philippe le Grenelle des violences conjugales, des gens nous disaient « est-ce que ça vaut bien le coup de mobiliser un Premier ministre pour des faits divers ?»
Il y a quelques jours, vous avez reconnu que les signalements étaient en augmentation. Pourquoi, selon vous ?
D'abord parce qu'on voit très nettement, moi je demande chaque mois les graphiques et on communique en conférence de presse avec le ministre de l'Intérieur les chiffres tous les mois. D'abord on a appelé une libération de la parole, moi je dirais surtout une libération de l'écoute. Ensuite vous avez de plus en plus de témoins. Et enfin nous avons créé davantage de dispositifs pour écouter les femmes, comme cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je veux dire que 20% des signalements de cette plateforme sont faits par des mineurs. Ça veut dire que dans 20% des cas, vous avez un adolescent ou un enfant qui se cache et qui prend son téléphone ou son ordinateur et qui dit « ma mère est dans la cuisine, elle est en train de se faire tabasser. Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Qui peut faire quelque chose ?» Voilà, les témoins maintenant commencent à réagir et tant mieux.
On continuera sur ce dossier très important. Une autre question, Yohann Uzaï.
Oui, on se souvient qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, vous étiez, il faut le dire, l'une des rares à alerter sur la colère que vous sentiez monter dans le pays, alors que beaucoup de vos collègues au gouvernement la minimisaient, cette colère. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez ce qui ressemble à un bouillonnement de la société? Quelles sont les colères précisément que vous identifiez en ce moment dans le pays?
Moi, d'abord, sur les Gilets jaunes, vous avez raison, et on a pris des mesures, et notamment parce qu'il y avait beaucoup de mères célibataires sur les ronds-points. Vous vous souvenez, beaucoup de mères célibataires qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à boucler leur budget. Et c'est évidemment quelque chose qui me touche. Et nous avons agi avec le président de la République là-dessus. Ensuite, en ce moment, vous avez raison. Moi, je crois qu'il y a une France, je le disais tout à l'heure, une France bienveillante, une France qui vit les jours heureux, la réouverture des terrasses, la vaccination, la relance économique. Mais il y a aussi des difficultés et il ne faut pas les sous-estimer. Moi, j'observe qu'il y a des difficultés chez la jeunesse. quand on est adolescent, qu'on est un jeune adulte et qu'on n'a pas pu faire son stage de troisième ou que c'était difficile. Voilà, je pense qu'il y a une difficulté particulière. Et le gouvernement y répond avec le dispositif Un jeune, une solution, qui permet de faire en sorte qu'aucun jeune ne soit laissé sur le bord du chemin sans solution qui corresponde à la réalité. Et puis ensuite, il y a des personnes qui ont vécu de façon terrible, qui ont vécu des deuils. J'ai reçu le collectif Tenir ta main, qui m'expliquait le deuil terrible qu'ils ont pu vivre pendant le Covid, avec l'impossibilité d'accompagner ses parents, ses proches dans les derniers moments. Je pense qu'il y a un impact psychologique fort et qu'il ne faut pas le minimiser. Et enfin, je ne suis pas plus longue là-dessus, moi j'ai alerté depuis des mois sur une forme de phénomène de décompensation à la fin du confinement. Des gens qui ont été enfermés pendant plusieurs mois, et d'un coup, ça rouvre, et il y a des phénomènes de décompensation, y compris parfois violentes, et ça, au ministère de l'Intérieur, nous mettons tous les moyens en œuvre pour y répondre.
Et on y revient justement dans quelques instants avec Manu Schiappa.
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, on poursuit sur le déconfinement des colères. Cécile Cornudet.
Oui, vous venez de nous parler de phénomènes de décompensation suite à cette longue période de Covid. Est-ce que dans un tel moment, on peut mener une réforme des retraites ?
Bon, je crois que la question sur la réforme des retraites, c'est est-ce que nous souhaitons sauvegarder notre modèle de retraite par répartition et pas par capitalisation.
Oui,
et
oui. La question, c'est, solidarité. La question, c'est quand le faire, sur la solidarité entre les générations.
Moi, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas en charge de
vous
cette question.
Vous sentez le climat social, vous pouvez dire, moi, ce que c'est pas le moment ou c'est le moment.
Non, mais au-delà de ça, j'observe surtout qu'il y a un calendrier parlementaire qui est assez chargé. On a pris beaucoup de lois importantes. Il y a des lois qui sont en navette. J'étais en audition au Sénat sur la loi sur le renseignement et terrorisme.
Il y aurait de la place pour le faire, s'il y avait une vraie volonté. Il y aurait de la place, parlement.
Moi, je ne sais pas. Ça appartient au ministre des Relations avec le Parlement, au président de l'Assemblée nationale et singulièrement au ministre en charge de cette question.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'urgence, si on vous lit entre les lignes.
Non, ça, honnêtement, je sais pas le dossier. Je suis pas en charge du dossier. Je veux pas empiéter sur les prérogatives de mes collègues. Je crois qu'il y a une nécessité de faire en sorte de sauvegarder notre système de retraite et donc de le réformer. Mais est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard? La décision m'appartient.
Juste une dernière question pour bien comprendre. Quand on a vu le sondage des Français qui disent OK, on a compris effectivement tout ce que vous dites, mais c'est pas le bon moment. C'est plutôt pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cet avis?
Moi, je pense que ça peut faire partie, effectivement, des grands enjeux de l'élection présidentielle et ce qui permet aussi d'avoir le débat de fond. On nous a reproché, dans un premier temps, d'aller trop vite sur cette réforme. Je trouve que c'est important d'écouter tout le monde, de savoir si on fait une réforme structurelle, une réforme paramétrique, et peut-être de poser les enjeux, y compris en ce qui concerne la retraite des femmes. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait dans la réforme que nous portions, c'est de dire qu'on va garantir un seuil minimum de retraite pour les femmes qui ont travaillé à temps partiel, qui ont eu des carrières hachées et qui aujourd'hui vivent avec très très peu d'argent. On dit parfois les boomers sont très heureux, passent leur vie en croisière, n'ont pas de problème, etc. Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il y a aussi des femmes et des grands-mères de maintenant qui sont en grande difficulté financière.
Effectivement, on y reviendra parce qu'on a compris que peut-être ce débat n'aura pas lieu tout de suite. En tout cas, autre débat donc effectivement sur l'état de la société, la colère contre les élus. C'était hier Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait à ce sujet au cours de la manifestation contre l'extrême droite. On écoute, on regarde.
Il faut vraiment que dans le pays, il y a un sursaut qui réponde à la situation que nous en sommes en train de vivre, un déploiement violent de l'extrême droite qui menace de mort, qui frappe le président.
Marlène Schiappa, qui est pour vous le vrai Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est le républicain qu'on vient d'entendre là ou est-ce que c'est plutôt pour vous le complotiste de ces derniers jours ?
Ah, mais c'est une excellente question que vous posez. C'est une excellente question parce que je ne sais pas. Et je pense qu'il faudrait lui poser la question. Nous avons parfois de Jean-Luc Mélenchon de discours très forts sur la défense des valeurs de la République. Et puis parfois, nous avons, je ne sais pas si c'est des moments d'égarement, je ne sais pas si c'est sa vraie nature, des discours complotistes, des discours agressifs. Je rappelle que la France insoumise a organisé quand même des manifestations en appelant à la décapitation du chef de l'État, dans lesquelles on tabassait une effigie de responsable politique, du président de la République, et ensuite condamner les violences dans la vie politique. Bon,
il a participé de l'hystérisation du climat.
Moi, ce que je veux dire, c'est que j'observe que dans les violences vis-à-vis des politiques, personne n'est épargné. Tous les responsables politiques sont victimes de ces violences. Mais j'observe aussi que ces violences, elles ne viennent pas de partout. vous n'avez à déplorer aucun acte de violence qui émane de la majorité présidentielle. Parce que la violence, elle ne fait pas partie de notre culture politique. Nous sommes un mouvement bienveillant. Pendant la présidentielle, Emmanuel Macron, quand il était candidat, disait qu'il ne veut pas qu'on siffle les autres, qu'il ne voulait pas d'attaque ad hominem dans ses meetings. Nous, nous faisons des campagnes joyeuses, où on se soutient, colorées, où on défend les idées.
Vous trouvez
idées
que c'est joyeux dans
jamais...
les Hauts-de-France en ce moment ? C'est joyeux en ce moment dans les
Hauts-de-France ? Bah,
moi, je
ne
sais pas si certains d'entre vous étaient au meeting au parc floral de Laurent Saint-Martin hier. Il y avait une ambiance très joyeuse.
Mais là, on parle
joyeuse.
Des Hauts-de-France. Vous trouvez que c'est joyeux dans les Hauts-de-France, la campagne
moi,
en ce moment ?
Moi, je vous parle de l'Île-de-France. Et ce que je vous dis,
c'est pas ma question, pardon. Là, on parle vraiment des Hauts-de-France.
Bah, moi, ce que je vous dis, c'est que la majorité présidentielle ne verse jamais dans la violence. Donc, qu'il y ait des réponses. Et quand Agnès Pannier-Runacher est attaquée, y compris sur sa vie personnelle et y compris de façon odieuse sur les marchés, qu'elle réponde, c'est bien normal. Et elle a bien raison de le faire. Et d'ailleurs, je voudrais souligner qu'Agnès Pannier-Runacher en a fait plus pour l'emploi en tant que ministre en quelques mois, pour sauvegarder un certain nombre d'emplois et pour défendre l'industrie, que François Ruffin en toute sa carrière.
Cécile Cornudet.
Oui, on a vu Emmanuel Macron tenter quand même de minimiser la gifle qu'il a reçue cette semaine. Son ami Jean-Pierre Chevènement dit au contraire, il faut en parler, c'est un symbole très très fort. Vous êtes sur quelle ligne
Mais moi, je pense qu'à la fois, il faut être lucide et ne pas minimiser ce qui s'est produit, c'est grave, et en même temps, ne pas effectivement avoir un effet de loupe, parce que c'est un acte isolé. Moi, je fais des déplacements avec le président de la République depuis maintenant près de 5 ans, et j'observe que l'accueil en général est très chaleureux. Les gens attendent, veulent le voir, échanger avec le président de la République. Et si vous me permettez, c'est vraiment la marque de fabrique du président de la République, ce lien direct avec les Français. Il l'a fait avec la grande marche pendant la présidentielle. Il l'a fait avec le grand débat national après les Gilets jaunes. Là, il le fait avec le Tour de France. Et on le voit sur les images. Le président ne peut pas s'empêcher de dialoguer, d'écouter, d'aller à la rencontre des Françaises et des Français. C'est ce qu'il aime.
La mise en lumière d'un dysfonctionnement. Au fond, il est seul. Le macronisme, c'est lui, tout simplement. Et il n'y a que lui qui, au fond, peut à chaque fois revitaliser ce qu'il a posé en 2017 et ce qu'il veut pérenniser pour 2022.
Mais vous savez, notre particularité, effectivement, c'est que nous avons construit un grand élan politique et un
autour
mouvement...
Autour de lui,
autour,
c'est tout.
Exactement, autour de la
volonté...
Que lui. Ben, il n'y a pas que lui, mais enfin, il y a un président de la République et moi, je ne vais pas m'excuser de ne pas avoir de guerre des chefs permanente dans mon parti. Je crois que c'est plutôt une chance de savoir où nous allons, avec qui et qui sera, je l'espère, notre candidat à l'élection présidentielle, plutôt que de diffuser la haine interne dans les partis politiques où on le voit, chacun s'entre-déchire pour savoir qui sera calife à la place du calife.
Alors, manifestement, Éric Zemmour se prépare à la présidentielle. Allons-y. Et si, finalement, ce n'était pas une si mauvaise nouvelle que cela pour le président de la République, parce que ça peut prendre sur Marine Le Pen, qui du coup voilà, à la présidentielle, n'arriverait peut-être pas en tête du premier tour. Ça vous arrange ?
Non, moi je ne fais pas ce genre de calcul et je pense que c'est très dangereux de jouer avec le feu de l'extrême droite et de se dire on va en faire monter un peu, comme ça l'autre va descendre mécaniquement, etc. Éric Zemmour, il participe depuis des années maintenant à la diffusion des idées d'extrême droite dans le débat public. Il ne s'en cache pas et je crois qu'après, il y a une démocratie, donc chacun a le droit de se présenter. Éric Zemmour a parfaitement le droit d'aller se lancer dans la course pour réunir les 500 signatures de maires et d'être candidat. C'est la démocratie, mais je ne crois pas, encore une fois, que cela représente la tonalité profonde de notre pays.
Est-ce que là, justement, ça n'est pas aussi une marque de ce dégagisme qui a été installé depuis 2017, cet effacement assumé entre la droite et la gauche dans un supposé dépassement des clivages, voilà, ça aboutit à des candidatures qui émanent de partout et au fond des Français qui sont un peu désorientés et qui
moi,
ne croient
savez,
plus en la politique.
Je fais partie des gens qui pensent qu'il y aurait une illégitimité à se présenter et vous observez que ça n'est pas ce que je réponds ni pour Éric Zemmour ni pour qui que ce soit. On entend parfois des artistes.
Donc vous encouragez Éric Zemmour à se présenter ?
Non, je n'encourage pas Éric Zemmour, mais ce que je dis,
au
c'est que
la démocratie.
La démocratie, c'est la même pour tout le monde. Les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde ou pour personne. Et donc chacun peut se présenter à l'élection présidentielle s'il remplit les conditions qui sont décidées par la Constitution de la Ve République. Et donc si chacun peut répondre à ces conditions-là, il est bien sûr libre de se présenter à l'élection. Et je crois que justement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est ce renouvellement des visages, rajeunir, féminiser l'Assemblée nationale, faire venir à lui des gens de tous les horizons, des gens de la société civile qui sont dans leur première responsabilité politique nationale. C'est mon cas, c'est le cas de certains de mes collègues. Et ça, vraiment, Emmanuel Macron l'a porté en sortant justement des clivages traditionnels et des partis politiques et de l'espèce d'alternance automatique gauche-droite.
On a le sentiment, c'est vrai que ce duel nouveau, à nouveau pour 2022, se présente entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le papier à date, mais les Français n'arrêtent pas de dire on n'en veut pas. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Ça va être imposé quand même ?
D'abord, pardon, mais les Français, je ne suis pas sûre. Parce que,
sondage après sondage, quels que soient les instituts.
Oui, mais sondage après sondage, vous avez aussi un sondage dans le JDD aujourd'hui qui montre que le président de la République est populaire comme aucun de ses prédécesseurs n'a été populaire.
Popularité, c'est pas intention de vote.
À ce stade, oui, mais c'est quand même, ça mérite quand même d'être souligné, à ce stade du mandat, particulièrement chez les jeunes, ce qui nous fait dire que c'est le président des jeunes. Et on voit qu'il est plébiscité, y compris chez un certain nombre de parties de la population, notamment chez les électeurs de gauche, qui disent qu'ils plébiscitent la politique menée par Emmanuel Macron. N'en déplaise aux commentaires qu'on entend pour dire que parfois nous serions trop à droite. Donc moi, je crois qu'il y a des soutiens dans le pays pour le président de la République. Et ensuite, qu'on souhaite qu'il y ait une autre personne en face du président de la République au deuxième tour, bien sûr. Mais moi, je le partage. Je vais vous dire, pour la vitalité de la démocratie et pour la vitalité du débat, je souhaite, c'est très personnel, que le président de la République se représente, qu'il soit au deuxième tour et qu'il affronte un autre candidat du camp démocratique ou républicain autre que Marine Le Pen. Et bien sûr, je souhaite qu'Emmanuel Macron l'emporte à la fin.
Merci, c'était donc le grand rendez-vous de Marlène Schiappa. À dimanche. Europe 1.